Eh bien, on va commencer une nouvelle série d'études. Elle concerne le baptême. Donc, bien sûr, notre église s'appelle une église baptiste. C'est-à-dire que nous avons une particularité, entre d'autres choses, hein, mais une particularité visible, c'est que l'on baptise les adultes. Et on baptise les adultes par immersion. Donc ça, c'est le deux points très importants. On baptise des personnes qui sont nées de nouveau, c'est-à-dire des personnes qui ont choisi un jour d'être sauvées, d'être réconciliées avec Dieu. Et ces personnes ensuite passent par les eaux du baptême, comme une confirmation de ce qui s'est passé à l'intérieur dans leur vie, comme un changement de vie. Donc, ce qui est très important, c'est que le baptême n'est pas un rite. Ce n'est pas une formule, ce n'est pas un sacrement. C'est le baptême, je donne un autre mot, c'est une ordonnance. C'est le pour beaucoup de personnes, le baptême, comme il y a dans le catholicisme le mot baptême, dans le protestantisme il y a le mot baptême, et chez nous il y a aussi le mot baptême, et dans les sectes il y a aussi le mot baptême, eh bien on fait la confusion avec ce mot, comme si cela signifiait toujours la même chose. Mais derrière un mot, il y a toujours une définition. Et si on ne donne pas la bonne définition, eh bien, on n'a pas la bonne signification du mot. C'est le baptême est donc un commandement que le Seigneur a donné à ses disciples et que nous suivons. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les. Hein? Enseignez-leur et baptisez-les. Donc, c'est les disciples qui sont baptisés. Alors, quand on baptise un enfant, même si ça porte le même mot, même s'il y a de l'eau qui entre dans la chose, eh bien, ce n'est pas le baptême biblique. C'est ce qu'on appelle un baptême, mais ce n'est pas le baptême. Quant au fait que ce n'est pas un sacrement, dans la définition du sacrement, le sacrement est un acte par lequel on obtient une bénédiction. C'est une grâce. C'est le geste lui-même a une signification et donne octroie une grâce à celui qui le pratique. Voilà. Donc, quand nous parlons du baptême, nous ne parlons pas de quelque chose qui nous donne une grâce. On obéit au Seigneur, simplement. Après, il y a une grâce dans l'obéissance. Mais le baptême lui-même ne procure pas une grâce. C'est l'obéissance qui fait que Dieu nous approuve et de notre côté et que nous sommes bénis. Mais c'est la désobéissance qui fait que nous ne sommes pas bénis et qu'il y a des problèmes et que les choses ne sont pas toujours comme il le faut. Mais le geste lui-même ne nous apporte pas une grâce. Dans ceux qui parlent de sacrement, la personne, si qu'elle soit consciente ou pas consciente, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est que le geste et les paroles soient faites. Par exemple, on prend un bébé, on lui verse de l'eau sur la tête. Et qu'il soit consentant ou pas, ni consentant ni pas consentant, il n'y a rien, il est neutre de ce côté-là. Mais il y a le geste et il a été baptisé. Ça s'appelle un sacrement. Mais jamais le baptême ne peut être un sacrement parce que c'est un acte volontaire. C'est quelqu'un qui décide d'être baptisé. Donc il n'y a pas de sacrement. Ce n'est pas dans le geste et dans les paroles qu'il y a quelque chose, c'est dans l'obéissance de la personne qui décide d'être baptisée, qui décide d'obéir à Dieu. Donc je vous donne bien la chose. Il y a des personnes qui baptisent. Alors, on n'a pas un rite baptismal. C'est-à-dire qu'une formule déjà prévue et consacrée et par laquelle nous devons baptiser les personnes. Et c'est vrai que parfois ça a été à la rivière, d'autres fois c'est dans un baptistère et dans des personnes plus pauvres et dans des églises où il y a eu la persécution, le baptême est beaucoup plus rudimentaire et on a moins de décors. C'est-à-dire que souvent c'est à la rivière et en cachette que les choses se passent. Et voilà. Donc, même il y a eu des personnes qui ont baptisé dans la baignoire. C'est pour vous dire, c'est difficile de baptiser dans une baignoire. Pourvu que la personne soit petite, ça va. Mais si elle dépasse les 2 mètres, ça sera plus difficile. Mais donc, dans la forme, il y a des multitudes de possibilités. Il y a donc les différents modes, rivière, baptistère, etc. Mais même dans les paroles, il y a des pasteurs qui posent certaines questions, d'autres qui posent d'autres questions, d'autres qui, en principe, les questions qui sont posées, c'est toujours par rapport à si la personne est sauvée, à la divinité de Jésus-Christ, à la Trinité. Ce sont des références de ce genre. Mais après, il y a d'autres questions parfois. Et le pasteur se sent parfois libre de poser une question supplémentaire ou de dire certaines choses qui sont adaptées au moment et aux circonstances. Donc on n'a pas de forme et il n'y a pas quelque chose qui est déjà prévu et où toutes les paroles sont écrites dans un livre et on récite des paroles déjà décidées. C'est donc le baptême, ce n'est pas un sacrement. Alors si vous aviez la pensée de dire le baptême c'est un sacrement, oubliez complètement cette pensée de sacrement, parce que le baptême chrétien, notre baptême, n'est pas un sacrement. Justement parce que le sacrement c'est autre chose, et ça ne correspond absolument pas au baptême. Je me rappelle... avoir lu une histoire plutôt humoristique d'un grand auteur français sur le baptême, un moqueur, hein. Et c'était le baptême catholique. Quelqu'un qui vivait une vie de débauche et il disait de toute façon, je me paye tout ce que je veux parce que le baptême efface tout. Tous les péchés, l'eau du baptême efface tout. Alors je me ferai baptiser quand je serai au dernier moment. Donc je jouis pleinement de la vie et je serai baptisé au dernier moment. Et alors il faisait toute sa vie de débauche et un jour il a un accident. Et quelqu'un il dit baptisez-moi, baptisez-moi. Alors la personne lui dit comment vous voulez? Alors il dit baptisez-moi, je veux être baptisé. Alors la personne prend de l'eau du ruisseau et lui verse sur le front en prononçant quelques paroles baptismales, et il meurt en paix. Voilà. Il a été baptisé. Seulement, l'eau n'était pas très crédible, et il y avait une station d'épuration pas très loin, et donc il est possible que l'eau ne soit pas de l'eau. Alors à ce moment-là, le baptême n'est plus valable, et la personne est morte dans ses péchés. Vous voyez le ridicule de la chose. Bon, c'est un incrédule qui a raconté cette histoire pour se moquer, et je vous passe les termes, parce qu'il a donné des termes qui sont différents de ce que j'ai dit. Mais en fait, c'est ce fameux baptême, on fait tout le mal que l'on veut, pas de problème, et le baptême effacera de toute façon tout ce que nous avons fait de mal, tout ce qui était... Il suffira de prononcer, verser de l'eau sur le front de la personne, dire quelques paroles, les paroles adaptées, et n'importe qui, hein, ce n'était pas, normalement, c'est même pas un prêtre qui peut faire le baptême, hein, n'importe qui. Et même parfois, un prêtre s'approche du berceau du bébé, la maman est à la maternité, et il y a un prêtre providentiel qui arrive, et avec un grand sourire, large sourire, et il vient et il vous fait « Ah oui, cet enfant, tout ça et tout, comment vous l'appelez ?» Et il vient pour l'examiner, parler avec lui, le prendre un peu dans ses bras, et en fait, il le baptise. Il le baptise avec sa salive. Et pour que l'on n'entende pas ses paroles, en général, il piétine sur place. comme ils ont de grosses chaussures, si on n'entend pas les paroles. Et en fait, il vient pour baptiser les nouveau-nés dans les... Parce que le baptême sauve pour eux. Alors que pour nous, le baptême ne sauve pas. Alors, comme disait un de mes professeurs, intelligemment, il disait, quand vous avez dans différentes sectes et mouvements religieux le même mot, cherchez la définition. Et nous avons les mêmes mots, mais nous n'avons pas la même doctrine derrière. C'est quand quelqu'un parle de baptême, c'est pas tout à fait ce que le baptême que nous avons qui est dans la Bible. Donc la parole de Dieu nous enseigne le baptême. Alors on va prendre deux versets. C'est Romains 6, verset 4. Alors celui qui l'a le lit. Romains 6, 4, oui.
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie.
Voilà. Donc, il est dit, nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort. Donc, le mot baptême. Vous avez un autre verset, c'est 1 Pierre 3, 21. C'est mon verset préféré quand je parle du baptême avec quelqu'un, parce qu'il est bien clair. 1 Pierre 3, verset 21.
Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve. Vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu.
Voilà. Donc, c'est le baptême, c'est cela. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Les Juifs avaient les eaux de purification. Ils utilisaient des eaux de purification. Et ce n'est pas les eaux de purification qui étaient instituées chez les Juifs. Le baptême n'a rien à voir avec cela. Ce n'est pas les eaux purificatrices que Dieu avait ordonnées à Moïse et avec la cendre d'une vache, etc. C'est beaucoup plus, c'est autre chose. Et celui qui a apporté le baptême, le premier qui a baptisé, c'est Jean, Jean-Baptiste. Donc ça permet de dire qu'il y a plusieurs baptêmes dans la Bible. Le premier baptême, c'est celui de Jean-Baptiste. Et ce n'est pas le baptême que nous pratiquons. Le baptême de Jean-Baptiste, c'était le baptême de repentance. C'était aussi un engagement de bonne conscience. C'est-à-dire que les personnes allaient, se faisaient baptiser, et ils se repentaient de leurs péchés. Et il y avait, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, c'est comme à notre époque, hein, on sent que nous sommes arrivés à la fin de quelque chose, et que quelque chose de nouveau va se passer. Et les gens, à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, le pensaient sérieusement. Et même si vous avez eu l'occasion de lire, mais maintenant le nom ne me revient pas, c'est un auteur latin, le nom ne me revient quand même pas, c'est les bucoliques, Virgile. Virgile avait déjà donné parlé qu'il attendait un âge d'or et qu'ils étaient arrivés à la fin d'un système et qu'il était évident que les choses devaient changer, que quelque chose de nouveau allait arriver. Donc, 50 ans avant Jésus-Christ, Virgile parlait de cette impression qu'il avait, qu'il attendait quelque chose. Lui-même, un païen, qui n'avait aucune relation avec la Bible, hein. Il n'en sait rien de la Bible. C'était pas l'époque où les Juifs et les Romains étaient très très en contact. C'est plus tard qu'ils ont été en contact. Donc il y avait cette impression générale que quelque chose de nouveau allait se passer. Et quand le Seigneur Jésus, juste avant qu'il arrive, Jean-Baptiste prêchait, et il prêchait la repentance parce que quelque chose de nouveau était imminent, allait arriver dans les heures qui venaient. Et c'est pendant qu'il baptisait, un jour, le Seigneur Jésus est venu lui-même pour être baptisé aussi. C'est donc les gens se repentaient. Et ce n'est pas du tout le même baptême. Nous sommes, même si c'est la même forme, ce n'est pas le même baptême. Notre baptême n'est pas un baptême de repentance. C'est le baptême qui est l'engagement d'une bonne conscience vis-à-vis de Dieu. Cela ne nous purifie pas donc des souillures du corps, c'est-à-dire que ce n'est pas l'eau de purification des Juifs qui servait à la purification des ustensiles et de votre maison et de vos corps. Mais c'est l'eau du baptême, c'est autre chose. Donc, quand on parle de baptême, eh bien, c'est toujours une personne qui veut obéir à un commandement de Dieu. Donc, je voudrais mettre une petite explication à la fin du verset que nous avons lu. Il y a « et qui maintenant vous sauve, vous aussi ». Le mot « sauver » va vous gêner. Mais j'ai déjà dit la chose et je la redis, parce que ça peut soulever une question, une bonne question même. Mais quand on parle de salut, il y a trois échelons, si je m'exprime, je peux m'exprimer ainsi. Le premier, c'est la justification. La deuxième, c'est la sanctification. Et la troisième, c'est la glorification. C'est-à-dire que nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes lavés de nos péchés et réconciliés avec Dieu, une fois pour toutes. Et ce n'est pas le baptême qui fait quoi que ce soit dans cette question-là. Par contre, dans notre sanctification, l'obéissance au baptême est absolument nécessaire. Nous ne marchons pas dans la sanctification si nous ne commençons pas par être baptisés. Donc, quand il est question ici qui vous sauve, c'est la sanctification. Ce n'est pas la justification. Nous ne sommes. Le baptême n'est donc pas nécessaire pour être justifié, mais il est nécessaire pour la sanctification. C'est une partie de notre salut. C'est la deuxième partie de notre salut. Pour vous dire, la glorification, c'est quand nous allons voir Christ face à face. Alors nous serons changés en la même image. Et notre salut sera complet. Mais néanmoins, quand nous sommes justifiés, il est complet, parce que potentiellement, tout y est contenu. Et le jour où nous allons voir Christ face à face, tout sera accompli. Ce sera rendu parfait. Mais c'est vrai que nous marchons dans la sanctification et nous travaillons, comme dit Paul aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et ce n'est pas à votre justification que vous travaillez, c'est à votre sanctification. C'est la deuxième partie de notre salut. De l'évangile, c'est la deuxième partie. Donc je me suis permis cette parenthèse parce que pour beaucoup de chrétiens, ce verset pose une question, mais en fait il n'y en a pas, parce que c'est tout simple, il s'agit simplement de la sanctification et pas de la justification. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, pas par l'eau du baptême. C'est clairement vu dans le reste de la parole de Dieu. Alors, quand nous sommes devenus chrétiens, nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Nous sommes passés du royaume de Satan au royaume de Dieu. Nous étions les enfants de ce monde et nous sommes devenus les enfants de Dieu. Il y a quelque chose de nouveau qui s'est passé dans notre vie, un changement complet. Nous ne nous rendons pas toujours compte du changement, mais nos voisins et nos amis voient qu'il y a quelque chose de différent. Je me rappelle, c'était à l'époque où on avait des chevaux, il y avait un homme qui était très très violent et particulièrement agressif et tout cela, et il se disputait avec tout le monde. Et toute la ville priait pour que cet homme se convertisse, parce qu'il était vraiment une charge pour tout le monde. Et puis finalement un jour il s'est converti. Et alors là, les gens ont vu le changement. Ils ont vu quelqu'un de tout à fait différent. Et alors quelqu'un lui disait, mais qui a le plus de... Nous sommes bien heureux que tu sois né de nouveau, que tu sois converti. Et il a dit, oh, il n'y a pas plus heureux que mon cheval. C'est parce que le pauvre cheval, il subissait toutes les animosités de cet homme. Il y a un changement dans notre vie. Nous sommes nés de nouveau. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Nous étions morts dans nos péchés et maintenant nous sommes vivants pour Dieu. Et le baptême, eh bien, c'est tout simplement l'image de ce qui s'est passé dans notre vie. Nous étions morts, c'est-à-dire on est plongé dans l'eau et on sort de l'eau, on est ressuscité. C'est une image. de ce qui s'est passé quand nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur. C'est pour cela que le baptême ne peut pas précéder la conversion, ne peut pas être donné à un bébé, parce qu'il faut passer par la nouvelle naissance pour être baptisé, parce que c'est l'image de quelque chose que nous avons vécu dans notre passé. Donc, quand nous pratiquons le baptême, c'est toujours en fonction de quelque chose qui est dans le passé, une action qui est une conversion. Nous sommes nés de nouveau, nous sommes réconciliés avec Dieu, alors nous nous faisons baptiser. C'est le Seigneur Jésus qui a dit à ses disciples, une des dernières paroles que le Seigneur Jésus-Christ a données à ses disciples, il a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris. » Voilà, le Seigneur Jésus a dit que nous devions être baptisés après être convertis. Faites des disciples et baptisez-les, et enseignez-les. Ça, c'est plusieurs étapes dans la vie d'un chrétien. Il y a la conversion, il y a le baptême, et il y a aussi l'enseignement. On est enseigné, on apprend des choses, on grandit dans notre vie chrétienne, on apprend par les messages, par les études, on apprend par les épreuves, par les tensions, par les frères et sœurs, on apprend de toutes les manières pour devenir un disciple. Et au fur et à mesure que notre croissance se fait, nous devenons de plus en plus semblables à Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus a dit qu'il fallait être baptisé. Baptisez-les. Alors il n'a pas dit simplement si vous en avez l'occasion, si les gens le veulent bien, si il a donné une parole impérative. Il n'y a pas d'autre explication. Il dit baptisez-les. Alors on se fait baptiser. Alors pour beaucoup de personnes, on se dit, oui, mais je vais être baptisé, qu'est-ce que les gens vont penser, que vont penser mes amis, je fais quelque chose d'un peu particulier, et bien c'est vrai, et les amis vont penser, et le diable pense aussi, mais je vais vous dire, il y en a un autre qui pense, c'est Dieu. Et moi, je préfère les pensées de Dieu que les pensées de tout le reste. Si Dieu m'approuve, c'est là le plus important. Si Dieu me donne un commandement et que j'y obéis, c'est cela qui est important. Après, les gens en disent ce qu'ils veulent. C'est leur problème. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit. Dieu dit dans sa parole que nous devons être baptisés. Alors, un chrétien doit être baptisé. Une fois né de nouveau, une fois réconcilié avec Dieu, il doit être baptisé. Dans ma propre expérience, quand j'étais à l'école du dimanche, j'étais dans les camps chrétiens, j'ai fait beaucoup de choses, et je sentais bien que dans ma vie, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et le pasteur, qui trouvait que lui, ma vie était parfaite, ou très, très bonne, très acceptable, il voulait que je sois baptisé. Et pour moi, j'évitais de le rencontrer, parce que à chaque fois, il me parlait du baptême. Et moi, je ne savais plus comment lui dire que non. Et comme je n'aime pas dire non brutalement, alors c'était de longues explications, et je ne me tardais que d'une chose, c'est qu'il me laisse tranquille. Et puis, un jour, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur. Je suis né de nouveau. C'est passé aux environs de la Pentecôte. Voilà. C'était quelques jours avant ou quelques jours après. Je pense que c'était après. Ou l'ascension. Maintenant, le doute est... Je n'ai jamais plus souvenu de la date exacte. Mais j'étais né de nouveau, réconcilié avec Dieu. Je suis rentré et j'ai dit au pasteur, je voudrais être baptisé. Alors, il était tout content de me baptiser. Mais je n'ai pas mis beaucoup de mois entre le moment où j'ai accepté le Seigneur Jésus et le moment où j'étais baptisé. J'étais baptisé au mois de juillet, alors que j'ai dû me convertir au mois de mai. Parce que c'était l'obéissance pour moi, l'obéissance à Dieu et à sa parole, était devenue une priorité absolue. Dieu a parlé, et je me suis dit, il faut obéir. Alors c'est l'engagement d'une bonne conscience. On choisit et on dit « Je veux marcher dans la voie des commandements de Dieu. Je veux obéir à Dieu, faire la volonté de Dieu. » Et le baptême, c'est la volonté de Dieu. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Mais c'est vrai que le baptême est quelque chose de très important. Le chrétien qui n'est pas baptisé marche dans la désobéissance avec Dieu.